Invité de la deuxième heure des matins du samedi, un des écrivains américains les plus prestigieux de sa génération, deux fois finaliste du prix Pulitzer, ancien président du Parlement international des écrivains, auteur de nouvelles, d'essais et de romans dont plusieurs ont été portés à l'écran. C'est un écrivain majeur doublé d'un homme très attentif aux évolutions du monde contemporain. Préoccupation que l'on retrouve dans les personnages qui peuplent ses écrits, aux prises avec l'injustice sociale ou raciale, la faillite morale des sociétés oublieuses de toute notion de solidarité ou la transmission faite aux générations futures. Il est en France à l'invitation du journal Le Monde qui fait ce week-end son festival et il a accepté la nôtre d'invitation pour notre plus grand plaisir. Bonjour Russell Banks.
Good morning, hello.
Merci beaucoup d'être avec nous de si bon matin. Et merci à Michel Zotowski qui va traduire simultanément vos propos. Alors je sais, Russell Banks, que ça vous paraît une curieuse singularité française qu'on demande à un écrivain de parler de politique et de parler de son pays. Mais il se trouve que vous vous prêtez bien au jeu. Vous faites la distinction entre le métier de romancier et le citoyen que vous êtes. Alors je vais vous demander ce qui se passe aujourd'hui chez vous. Cette procédure d'impeachment dont on entend parler de ce côté de l'Atlantique. Est-ce que c'est une bullshit, une connerie, comme l'a dit Donald Trump dans un tweet récent à propos de cette histoire d'enquête parlementaire? Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui à travers cette histoire et cette procédure?
L'administration et la présidence des États-Unis, c'est très bien ce qui est en jeu. Il n'y a que trois présidents dans l'histoire des États-Unis qui ont été destitués. Vous savez, c'est comme l'inculpation, un début de procédure. Avec chaque jour qui passe, je suis de plus en plus optimiste qu'en fait, il sera dans ce processus d'inculpation. Est-ce qu'il sera retiré? Est-ce qu'on lui retirera le pouvoir? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que c'est le Sénat qui doit juger finalement. Et le Sénat est contrôlé par les républicains, Mitch McConnell, qui sont toujours derrière et qui soutiennent Trump. Pas en raison de loyauté ou personnelle ou d'idéologie, mais simplement parce qu'il contrôle le pouvoir politique. Et leur emploi dépendent de lui. Mais c'est un moment dans l'histoire des États-Unis qui me fait sentir plus effrayé que je n'ai jamais été dans ma vie. J'ai 79 ans maintenant, donc je traîne mes guêtres depuis longtemps et je connais la vie politique et sociale américaine depuis trois quarts de siècle et j'ai jamais été aussi angoissé qu'aujourd'hui. J'ai jamais autant senti la menace de la violence sur une si grande échelle. J'ai jamais entendu jusqu'à présent des gens parler de telles possibilités de guerre civile, d'un coup d'État, les mots de trahison, ces mots-là pénètrent profondément dans nos débats, dans la presse et même dans nos discussions privées. C'est extraordinaire et ça fait peur dans un pays où il y a plus d'armes qu'il y a de citoyens, plus de 300 millions d'armes qui se promènent aux États-Unis.
Ici,
vous avez eu un policier qui a attaqué d'autres policiers avec une arme blanche. Ici, vous avez eu 4 morts, mais aux États-Unis, ça aurait été avec une arme automatique, il y en aurait eu 40.
Vous êtes très angoissé, vous êtes effrayé, dites-vous, Russell Banks. Est-ce que l'autre camp politique qui a vos faveurs, le camp démocrate, ne tend pas à vous rassurer dans ses démarches?
No, I think we're facing a situation not terribly different from what we faced when
je crois que nous sommes face à une situation qui n'est pas tellement différente de celle qui s'est produite lorsque Hillary Clinton était candidate. Les démocrates sont très capables de perdre l'élection.
Just by virtue, for instance, of fielding so many candidates
par,
to begin with.
Le fait qu'ils mettent tellement de candidats en présence, ils diluent les votes démocrates. et ce n'est pas qui, pour qui ils vont voter ou pour qui les démocrates vont voter, mais c'est, en fait, l'important c'est les 20% qui sont entre les deux. Comment est-ce qu'on peut les attirer pour qu'ils vous soutiennent? Et les démocrates ont rendu les choses très difficiles pour qu'ils puissent gagner l'élection.
Aux primaires démocrates de 2016, Russell Banks, vous aviez soutenu Bernie Sanders. Bernie Sanders, aujourd'hui, est dans le trio de tête avec Joe Biden et Elizabeth Warren. Mais c'est Elizabeth Warren qui, pour la première fois cette semaine, devance Joe Biden dans les sondages nationaux. On entendait que la campagne de Joe Biden patine, enfin le début de campagne de Joe Biden patine du fait de cette procédure d'impeachment et de cette histoire avec Donald Trump et son fils. Les Américains ont élu un noir avec Barack Obama. Est-ce que, selon vous, ils pourraient élire une femme?
Well, yes, I think actually it could be
done. Oui, je pense que ça pourrait être fait.
Elizabeth Warren
est un candidat extrêmement fort. Elle promeut mes valeurs, mes positions qui sont centre-gauche et je suis à l'aise avec elle. Je ne suis pas certain qu'elle pourrait remporter l'élection toutefois, pour plusieurs raisons. Oui, c'est vrai, c'est une femme et récupérer les 20% qui sont au centre, ça va être très très dur pour une femme, je le pense. Et puis son âge, deuxième handicap, elle a 70 ans maintenant.
C'est la plus jeune des trois.
Hein.
70, 76,
78. Le pauvre Bernie vient d'avoir une crise cardiaque. Et voilà. Ça rappelle à tout le monde que c'est un homme qui est septuagénaire. Et puis Biden est un peu sali par cette association avec l'Ukraine. Je serais très heureux si elle finissait la course comme seule candidate. Mais je serais pas très, très certain qu'elle puisse battre Donald Trump.
Est-ce que vous pensez que Donald Trump a des chances de gagner? Alors, au vu de ce qui se passe là-bas, les choses sont un peu... Il faut rester prudent, bien sûr, comme il fallait rester prudent il y a 3 ans, quand tout le monde annonçait la victoire d'Hillary Clinton. Est-ce que cette fois, pour vous, il peut gagner s'il n'est pas destitué avant? Est-ce que les électeurs qui ont voté pour lui en 2016 seraient les mêmes? Est-ce qu'ils bénéficient de sa politique au point de pouvoir à nouveau voter pour lui?
Absolutely, he has a core support of about what 35%.
Il a, disons, un cœur d'électeurs de 35%. Et de la façon dont c'est distribué, étant donné notre système électoral, il a des fortes chances de battre le candidat démocrate, à moins que les démocrates présentent un candidat centriste, et à moins de nommer un centriste blanc, ils vont perdre cette élection. Ça ne se produira pas. On ne va pas battre Trump. Si Trump n'est pas destitué, eh bien, il va remporter l'élection en 2020.
Sur quoi va se jouer cette campagne? L'économie, l'immigration.
L'économie, ça sera pas le problème, ça sera plutôt la solution. Ça sera des problèmes symboliques, comme toujours aux États-Unis, quand l'économie est plutôt bonne. L'économie vraiment est très bonne en ce moment sous Trump. Ça sera pas un problème. Il va utiliser le genre, l'immigration, la race, les angoisses qui existent à travers le pays, particulièrement au sein de la population des travailleurs blancs, pauvres. Et c'est une question, comment est-ce que c'est... La seule question, c'est où vont aller ces 20% du centre? Est-ce qu'ils vont aller vers la gauche pour soutenir un démocrate? Ou est-ce qu'ils vont aller vers la droite et voter pour Trump? Moi, je crains qu'ils n'aillent dans cette dernière direction.
Vous parlez d'économie, et l'économie effectivement se porte bien, c'est en tous les cas ce qu'on dit, c'est ce que dit aussi le taux de chômage qui est le meilleur depuis 50 ans, puisqu'il est le plus bas avec 3,5% depuis 1969, c'est un chiffre qui est tombé hier. Est-ce que vous diriez que le bilan de ces quelques années de premier mandat de Donald Trump est au moins positif sur le point de vue économique, sur la vie quotidienne de ces personnes en souffrance qui peuplent vos romans, Russell Banks?
Yes, in fact, he inherited, however, an economy
en fait, il a hérité d'une économie qui avait été réparée par l'administration Obama. Et elle continue à fonctionner bien grâce à la politique d'Obama, en dépit de la politique menée par Trump. Les coupes dans les impôts qu'il a fait voter au cours de son mandat, les implications et le prix eh bien, vont devoir être payés plus tard. Pour l'instant, nous sommes en train de continuer sur les rails de l'économie d'Obama. Nous ne sommes pas sur les rails de l'économie de Trump. Quelles sont les politiques introduites par Trump au cours de ces deux années et demie, trois années, sont économiques. La seule que l'on peut pointer du doigt, ce sont les réductions d'impôts en faveur des actionnaires et des grandes entreprises. Ces réductions d'impôts ne sont pas allées vers les travailleurs. Les avantages des travailleurs, grâce à ces politiques, eh bien, c'est grâce à des politiques qui ont été mises en place par les huit années des mandats d'Obama après 2008.
Russell Banks, vous vivez entre l'État de New York et la Floride. Est-ce que vous voyez toujours, et dans ces deux États en particulier, deux Amériques différentes?
Well, you say New York State and
l'État de New York et la Floride. Dans l'État de New York, moi je vis dans le pays de Trump. Je vis dans la partie nord de l'État, qui est beaucoup plus proche des Appalaches, montagnes Appalaches, que de New York. Et moi, je suis entouré de gens qui portent les armes apparentes, qui les apportent à l'école et au travail. Et c'est ceux qui sont en faveur des slogans de Trump.
Et
en fait, c'est un environnement totalement différent. New York, c'est pas le pays de Trump, c'est l'avenir de l'Amérique. Enfin, j'espère en tout cas. Le contraste, c'est pas celui auquel on s'attend. Je pense que nous vivons, oui, dans deux Amériques, pour répondre à votre question. Et l'Amérique est divisée entre la classe moyenne supérieure sur la côte Est, la côte Ouest, instruite, avec bien positionnée pour les innovations technologiques et les divers aspects de notre économie d'un côté, et puis l'Amérique du milieu et du sud, les lieux où Trump est le plus populaire, nous avons des gens qui s'en sortent de façon très marginale, qui ont été laissés sur le côté de la route par l'économie.
Ça a été l'analyse après l'élection de Donald Trump, ce qui nous a permis de comprendre à nous tous pourquoi Donald Trump avait été élu. Si d'ailleurs on avait peut-être lu plus vos romans aux États-Unis avant l'élection de Trump, on aurait compris, puisque ce sont ces gens qui peuplent vos romans depuis 40 ans, Russell Banks. Mais aujourd'hui, vous diriez qu'il y a autant de divisions, sinon plus, que lors de l'élection de Donald Trump. Rien n'est réglé de ce point de vue-là.
Rien n'a été réglé. Je crois que les choses ont empiré en plus au cours de ces dernières années. En partie parce que la sympathie et l'empathie que vous avez décrites et qui se trouvent dans mes livres ne s'articulent pas en termes de porte-parole politique. Les politiciens et les gens de culture n'ont pas trouvé la voie pour parler à ces gens-là de façon avec beaucoup de sympathie, de compassion, d'intelligence. On utilise un vocabulaire politique et un vocabulaire social pour nous décrire les uns les autres, un vocabulaire qui ne s'applique plus à la réalité. Vous vous posez la question, ça serait bien si tout le monde avait lu mes livres, oui, mais je ne pense pas que ça aurait changé l'esprit et le cœur du peuple américain.
Russell Banks, vous êtes écrivain, mais vous avez été le président du Parlement international des écrivains. Et suite à cela, vous avez fondé, et vous le présidez encore, le Cities of Refuge North America, qui crée des lieux d'asile aux écrivains menacés à l'étranger. Ilan Toti, dont nous parlait à l'instant Matteo Caranta, n'est pas à proprement parler un écrivain au sens de littérature, au sens de fiction du terme. C'est un professeur d'économie. Mais malgré tout, est-ce que vous diriez que la notoriété internationale ou les prix internationaux, et c'est la question que posait Matteo, préserve ou épargne de la menace? Est-ce qu'il protège quelqu'un qui est menacé?
Well, I think that any award which draws the
toute récompense, tout prix qui attire l'attention du public sur un écrivain, un journaliste, un universitaire qui est emprisonné et persécuté, c'est une bonne chose. C'est une des rares façons dont on peut aider et soulager ce genre d'oppression et de suppression de pensée par les autorités. Mais ça n'aura pas beaucoup d'effet à moins que le monde entier y fasse attention. Le prix Nobel attire l'attention, oui. Le Pen international, oui, attire l'attention sur des écrivains persécutés.
Et
ça met des gouvernements dans l'embarras. Et la dernière chose qu'ils désirent, c'est effectivement ce genre de phare tourné vers leur politique. Ils aimeraient faire disparaître les gens. S'ils peuvent le faire, ils le font. C'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que nous pouvons faire d'une certaine manière. Attirer l'attention. Et plus il y aura de publicité pour le prix Václav Havel, le mieux ce sera. Et ça doit être international, pas simplement limité à un pays ou à un seul endroit, ça devrait être mondial.
Russell Banks, quand vous êtes venu la dernière fois en France, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans, en 2017, pour votre livre Voyager, vous étiez quelqu'un de plutôt pessimiste. Vous trouviez que la jeunesse était passive, qu'elle ne croyait plus pouvoir changer le monde. Alors j'aimerais savoir si en 2 ans, avec à la fois le mouvement de libération de la parole des femmes, MeToo d'un côté, et puis les marches pour le climat de l'autre, vous êtes aujourd'hui plus optimiste. Là, je suis en dehors de votre pays, puisque tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez particulièrement angoissé et effrayé par ce qui se passait et par la marche de votre pays, au-delà de votre pays.
Well, you know, for the last few weeks,
au cours des dernières semaines, beaucoup d'Américains tels que moi ont dit « Bon, peut-être que ce moment est différent. » Peut-être que c'est pas ce que nous avons vu au cours des dernières décennies. Ça ne va pas disparaître. Mais je crains d'être pessimiste. Vous savez, pendant les vacances scolaires, les enfants ont manifesté, sont passés à la télé. J'ai beaucoup aimé ça. Mon petit-fils a participé à ces manifs aussi. Mais j'ai vu la même chose se produire après la tuerie de Parkland aux États-Unis. Les enfants sont sortis dans les rues et on espérait que l'attitude des adultes envers les armes changerait. Pendant quelques semaines, c'était bien. Ces enfants étaient intelligents, ils parlaient bien, et ils ont défilé dans les rues. Et puis quelques semaines plus tard, tout ça a disparu. Ça a quitté les unes, les enfants sont retournés à l'école, ils sont inquiétés de leurs résultats scolaires, de leur entrée à la fac, et le mouvement de la jeunesse contre les armes s'est évaporé. Je crains que la même chose ne se produise. Les mouvements de jeunes vont s'évaporer. C'était pas la même chose lorsque moi j'étais jeune dans les années 60, et d'une certaine façon, c'était beaucoup plus facile de contrôler l'information, les messages, la voix de la jeunesse et de la faire entendre. Et ne pas la faire disparaître par le message suivant sur Facebook. Être, si vous voulez, absorbé, digéré par les médias tels que ça se produit aujourd'hui. Je suis aussi pessimiste que je l'étais il y a 2 ans.
Mais
peut-être même plus.
Aujourd'hui, si vous aviez 20 ans, vous vous feriez quoi? Vous seriez dans la rue pour défendre le climat, pour sauver la planète? Qu'est-ce que vous feriez?
Yes, I think I probably would be.
Probablement, oui. Donc je me pose la question, qu'est-ce que je peux encourager mon petit-fils à faire? Il n'a que 11 ans, mais il est très conscient de ce qui se passe. Je l'encourage, oui, à rejoindre le mouvement. C'est la seule façon dont les choses peuvent changer. Choisis tes questions, tes problèmes, et dévoue-toi à cela. Et fais de telle sorte que tes amis te rejoignent. Je pense que je ferais ça si j'avais 20 ans. Choisis ta cause. Je pense que l'environnement, oui, c'est une question tellement énorme à laquelle il faut répondre. Vous savez aussi, par exemple, avoir un règlement, une régulation des armes aussi, c'est possible si on s'organise correctement. Dans les années 60, on ne pouvait pas changer le système économique, le capitalisme, mais on a pu changer le cours de la guerre du Vietnam. On a pu changer, par exemple, ce qui se passait dans les droits de l'homme. Des batailles bien centrées peuvent réussir.
Vous parlez écologie avec votre petit-fils qui a 11 ans. Est-ce que vous lui parlez aussi des tensions raciales? Votre petit-fils est noir de peau. Est-ce que vous avez peur pour lui? Est-ce que lui-même a peur? Ou est-ce que, comme dans le livre La colère noire de Ta-Nehisi Coates, qui a écrit une lettre à son fils en essayant d'expliquer à quel point il avait peur pour lui, mais à quel point il était difficile de dépasser cette peur parce qu'il ne voulait pas non plus l'effrayer. Comment parlez-vous de ces questions-là avec votre petit-fils, Russell Bank?
C'est difficile. La mère de mon petit-fils, ma fille, et son père, et moi-même, ma femme, on a tous dû se mettre autour de lui et lui donner des conseils sur la façon dont il est perçu par le monde qui l'entoure. Il vit à Los Angeles, ce qui est une bonne chose. Il va dans une école qui est multiraciale et pour l'instant, il ne souffre pas de formes ouvertes de racisme. Mais il doit savoir comment il est considéré par les étrangers dans la rue. Et c'est une chose tellement triste de devoir faire. Être face à un garçon de 11 ans, c'est un beau gars, il est très actif physiquement, et de lui dire à quel point la police, les policiers blancs le perçoivent. Il faut lui dire de ne pas porter de hoodie, de porter de capuche, de se conduire de façon qui pourrait être perçue comme menaçante. C'est pas une question dont on aurait dû traiter s'il était blanc, et ça fend le cœur de devoir en parler avec lui. Mais c'est inévitable. Il faut le préparer pour un monde qui le considère comme une menace.
Dans Voyager, vous l'écrivez, Russell Banks, le récit de la race, c'est le récit de l'Amérique. Vous reprenez aussi des mots de James Baldwin. On n'en sort pas, et la mandature de Barack Obama n'a rien changé à l'affaire.
That's right. Racism is in our
DNA. Le racisme est dans notre ADN, notre ADN national. 400 ans de racisme, 300 ans d'esclavage, 400 ans de suprématie raciste qui prédomine notre culture, c'est pas une chose simple à régler par une seule législature. C'est un tabou. Et voilà, on est très très loin de transformer ce tabou. Et tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un comme Trump qui arrive au pouvoir et qui ranime les feux, et puis voilà, ça reprend, ça repart.
Pour vous, le romancier, l'écrivain Russell Banks, le vrai travail de l'écrivain, c'est de lutter contre les mythologies. Mais j'ai un peu envie de vous demander, Russell Banks, que peuvent les écrivains aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des nouvelles mythologies que sont les fake news et qui est souvent aussi Internet?
Je pense que la seule raison d'inviter un écrivain, un artiste, de commenter les événements quotidiens, c'est pas parce qu'ils sont tellement intelligents et qu'ils sont des analystes fins. Tout bon journaliste peut faire un meilleur boulot qu'un artiste. Ce que les artistes apportent au débat, c'est au mieux la vue à long terme. Ils intègrent les instants de nos vies dans la grande image de l'existence humaine. Et c'est ce que le journalisme ne permet pas. L'Internet ne l'encourage pas non plus. Mais c'est absolument essentiel en passant de la vie quotidienne pour savoir comment passer de siècle en siècle, de millénaire en millénaire en tant qu'êtres humains.
Donc les romanciers ont encore un avenir?
Je ne sais pas si le roman a un avenir, mais le storytelling, le récit, la narration, oui, ça a un avenir.
En 2016, vous déclariez au journal Le Monde que vous aviez commencé un nouveau roman et qu'en général, l'écriture d'un roman vous prenait 2-3 ans. On y est? Il est fini ce roman?
Oh yes, I'm so glad you asked.
Je suis très heureux que vous posiez la question.
Because in the last 2 weeks,
parce qu'au cours des deux dernières semaines, j'ai réussi à conclure ce roman. J'arrive ici à Paris, vraiment, je suis de très bonne humeur parce que j'ai pu laisser de côté ce livre terminé sur mon bureau.
Comment on sait qu'un livre est fini, qu'on met le mot fin? Russell Banks.
I think you just... You know that you're finished. You know you can't.
Vous avez terminé. Vous êtes arrivé à la fin de vos capacités et vous ne pouvez plus l'améliorer. En théorie, c'est améliorable, mais moi, je ne peux pas l'améliorer.
Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu maintenant qu'il est fini? Parce que les lecteurs américains vont avoir le privilège de le lire bien avant nous. Nous, il va falloir qu'on attende un petit peu maintenant pour qu'il soit traduit. Donc, de quoi parle ce livre?
I can give you a short
Allez, je peux vous donner un petit résumé. Ça traite d'un aspect peu connu des années 60 et 70. 60 000 mâles américains jeunes se sont enfuis au Canada pour éviter d'être incorporés pour aller au Vietnam. C'était soit des déserteurs, soit des gens qui sont partis de leur plein gré avant d'être incorporés. 60 000, c'est énorme. Et ils ont reçu le statut de réfugiés par le gouvernement canadien. Contre le souhait et tous les efforts qui ont été faits par le président de l'époque, Lyndon Johnson et Richard Nixon, qui ont tenté de faire revenir ces jeunes gens et de les emprisonner. J'étais fasciné par cette histoire, ce petit passage de l'histoire. Un contraste remarquable avec l'idée que ce qu'était un réfugié, c'était des gens, des jeunes, qui évitaient ce qu'ils considéraient comme une guerre illégale. Ils ne tentaient pas d'échapper à la persécution en tant que telle. Pourtant, le Canada s'est senti en droit de leur accorder le statut de réfugié. Et je suis aussi fasciné par le fait que, sur ces 60 000, après que le président Carter leur ait accordé l'amnistie dans les premiers jours de sa présidence, 10% seulement sont revenus, seulement 6 000 sont revenus aux États-Unis. Le reste est resté au Canada et ont été assimilés. Voilà, c'est une histoire de ce segment. Maintenant, ces gens-là ont 70 ans et je suis fasciné par ce genre d'histoire.
Et son titre, le titre de ce roman?
Je ne
suis pas décidé quant au titre. Un titre long et poétique, peut-être.
Recalling who I was, I see somebody else.
En me souvenant de qui j'étais, je vois quelqu'un d'autre.
Restez avec nous.
C'est la première
oui,
traduction.
Ça va peut-être rester, vous savez. Restez avec nous, Russell Banks, pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi.